Les gens n'ont pas confiance en ça parce que, dans le fond, il y a comme des mécanismes qui font que quand on a une envie spécifique pour un aliment, ben quand on y répond, l'envie diminue.
Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et je vous souhaite la bienvenue à mon podcast « La force de changer ». Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de balado-diffusion préférée. La force de changer est propulsée par les centres Humanovo, spécialistes de la perte de poids et de la motivation à l'entraînement. Ici, on vous motive à être en forme et à le rester. On parle de sujets qui vous touchent, on rencontre des gens qui ont transformé leur vie et on s'entretient avec des professionnels de différents horizons.
Hey Stéphanie, bienvenue à La Force de changer. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu es officiellement la première professionnelle que je passe en entrevue. Tu vas bien?
Oui, merci. Ça va bien. Toi aussi?
Ouais, super. Merci. Ouais. Stéphanie, aujourd'hui, on va parler principalement d'alimentation intuitive. Tu es nutritionniste. Tu travailles au CEPIA.
C'est ça.
C'est bien ça. Hein? Ouais. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler là, de cet angle-là dans l'alimentation intuitive plus précisément?
Okay. Ben, dans le fond, moi, j'ai fait mon bac à l'Université Laval. En nutrition, évidemment. Puis les premières fois que j'ai été en contact avec l'alimentation intuitive, c'était au travers de mon dernier stage au baccalauréat. Tranquillement, dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé bien traditionnellement. Puis avec certains clients, j'ai commencé à utiliser cette approche-là pour me rendre compte que c'était une approche qui faisait du bien aux gens. Puis au fil du temps, je suis allée acquérir davantage d'expérience avec l'alimentation intuitive pour finalement aller chercher des formations plus spécifiques, tranquillement commencer à travailler à mon compte pour éventuellement, dans le fond, me lancer à 100% en pratique privée avec le CEPIA.
Le CEPIA, c'est quoi exactement?
Une clinique universitaire. Dans le fond, le CEPIA, c'est un acronyme qui veut dire le Centre d'expertise en poids, image et alimentation.
Okay.
Donc, on est une clinique qui se spécialise dans le traitement de l'hyperphagie boulimique, qui est en fait un trouble alimentaire qui se manifeste, bon, principalement, je dirais pas dans tous les critères, là, mais par des crises de boulimie, mais sans comportement compensatoire, comme on pourrait voir chez la boulimie nerveuse, là, la boulimie, le trouble alimentaire qu'on connaît. Là.
Okay.
On se spécialise aussi dans toutes les problématiques reliées à l'image corporelle, reliées au poids, fait que préoccupations, ça peut être aussi des désordres métaboliques, mais c'est ça, beaucoup, beaucoup dans, justement, là, tout le traitement de l'obésité et du surpoids.
Donc, tu as fait ton bac en nutrition, travaille dans le réseau de la santé, donc des CLSC?
À l'hôpital principalement, CLSC un peu. Je travaillais surtout avec des personnes âgées, beaucoup, beaucoup.
OK.
Fait que c'était beaucoup dans... C'est drôle à dire, mais c'était beaucoup dans l'alimentation intuitive quand même avec les personnes âgées parce que c'est des personnes qui sont surtout en fin de vie. Donc, l'approche nutritionnelle est vraiment différente. Mmh. Souvent, on enlève beaucoup les restrictions, même s'il y a des problématiques de santé. On essaie surtout de nourrir le corps. Fait que ça se rejoint à quelque part versus, mettons, si on est plus en maladie aiguë avec la clientèle adulte là, chez qui on cherche à augmenter, mettons, l'espérance de vie. Fait que moi, ça me convenait vraiment, là, cette approche-là. J'ai travaillé aussi en santé mentale. C'est là que j'ai commencé à toucher davantage à tout ce qui était troubles alimentaires. Fait que, dans le fond, on ramassait, si on veut, les troubles alimentaires là, qui ne pouvaient pas être pris en charge déjà par le réseau. Fait que les gens de... on appelle ça, en fait, des troubles alimentaires non spécifiés. Fait que c'est des gens qui vont avoir des désordres alimentaires, mais qui ne seront pas nécessairement diagnostiqués parce qu'ils ne correspondront pas aux critères diagnostiques.
Par exemple, l'anorexie, là, qui a un cadre très précis de diagnostic. Donc, c'est ça.
C'est ça. Fait que c'est tout ce qui était comme sous-clinique, nous, on pouvait les traiter finalement.
Donc, tu as travaillé dans le réseau de la santé. Maintenant, tu travailles au CEPIA. Bon. C'est quoi l'alimentation intuitive, là? Je sais que ça peut être probablement décrit de plusieurs façons, véhiculé de plusieurs façons, mais toi, comment tu l'appliques? C'est quoi pour toi l'alimentation intuitive? Et pour les gens qui nous écoutent, là, si on veut simplifier,
oui,
ça consiste en quoi?
Bien, grosso modo, dans le fond, c'est d'apprendre à manger selon différents principes. Je dirais, mettons, le principal principe, c'est vraiment de rejeter la mentalité des diètes. Fait que tout ce qui est de contrôler ses apports alimentaires, contrôler ses apports caloriques, contrôler... on n'exclut aucun aliment. T'sais, tous les aliments sont valables. Tant que la personne aime ces aliments-là, on les inclut dans l'alimentation. Puis on essaie de manger selon ses signaux corporelle. Fait qu'autant le système de régulation physiologique qui est en fait de répondre à la faim et au rassasiement, mais aussi de répondre au système de régulation hédonique. Donc, le système de régulation hédonique, en fait, son rôle à lui, c'est de surtout utiliser l'alimentation pour répondre à des besoins qui sont pas nécessairement physiologiques, qui sont plus de l'ordre du plaisir ou du réconfort. Ou fait que souvent, tu sais, ce côté-là est comme moins accepté par les gens qui vont être dans des préoccupations alimentaires, dans des préoccupations par rapport au poids. Souvent, c'est ça, toute la mentalité de diète va venir diaboliser, si on veut, les envies de manger, là, mettons, manger ses émotions ou, tu sais, fêter avec la bouffe, tu sais. Mais, dans le fond, l'alimentation intuitive vient valider ça. Puis, en fait, ça, c'est supporté au niveau scientifique que, justement, ces deux systèmes de régulation-là vont de pair, sont indissociables l'un de l'autre, puis que les problèmes, finalement, apparaissent lorsqu'on essaie de tasser l'alimentation hédonique pour se concentrer sur le système de régulation plus physiologique.
Donc, on doit, d'une part, nourrir la cellule avec des bons nutriments. Évidemment, si on est hyper carencé, c'est pas mieux.
Oui.
Mais il faut répondre aussi aux besoins de prendre plaisir à manger dans tout ce que ça implique. Là.
Exactement. Exactement. Puis ce qui est intéressant, dans le fond, dans cette approche-là, c'est que si, à prime abord, les gens, des fois, sont stressés à cause qu'ils disent, ben c'est parce que là, moi, si je me mets à manger juste des affaires qui me plaisent, ben tu sais, je vais manger de la poutine 24/7, là. Mais la réalité...
Une nuance importante, là, j'ai envie de t'entendre.
Oui, c'est ça. Mais la réalité, c'est que comme on est en symbiose entre le système physiologique et le système hédonique, ben il y a quand même le système physiologique qui dit, ben moi, il faut que je nourrisse mon corps. Fait qu'il va avoir, dans le fond, des envies de manger par plaisir, mais des légumes, du saumon, tu sais, des grains entiers. Quand l'alimentation devient une partie de plaisir, ben tu sais, c'est autant les aliments qu'on qualifie traditionnellement de sains et de malsains qui viennent faire partie de l'alimentation, puis ça arrive de ressentir un craving pour des pommes, tu sais, puis...
Donc, si je comprends, excuse-moi,
vas-y.
Si je me dis, écoute, moi, je me fais pas confiance, et là, je me dis, regarde, je vais manger de la poutine, dîner, souper, ben ça se peut qu'au cinquième jour, je vais dire, hey, il me semble qu'un bon saumon avec du brocoli, ça me rendrait heureux.
C'est
il
ça.
Va avoir comme de façon intuitive cette envie-là qui va naître chez moi.
Exactement. Exactement. Puis les gens n'ont pas confiance en ça parce que, dans le fond, il y a comme des mécanismes qui font que quand on a une envie spécifique pour un aliment, ben quand on y répond, l'envie diminue. Sauf que l'affaire, c'est que, ben on se sent pas coupable de répondre à une envie de manger du saumon et du brocoli. Fait que l'envie persiste pas. Versus, si j'ai envie de manger une poutine, mais que je me retiens depuis tout le mois de janvier, à cause là, c'était le mois de la poutine chez Ashton, là. Ben là, tu sais, tout le mois de janvier, je me suis empêchée de manger de la poutine, même si ça me tentait, puis tout ça. Mais là, dans le fond, mon envie de manger est restée dans le tapis parce que mon corps n'a jamais pu répondre à cette envie-là, donc l'envie n'a jamais pu diminuer.
Donc
finalement,
la culpabilité empêche vraiment l'être humain de ressentir une réelle satisfaction, puis ça va pas combler le côté hédonique, tu disais?
Exactement.
De l'alimentation.
C'est ça.
Ah, c'est intéressant.
Oui. Puis tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a plein d'autres complexités aussi qui se rajoutent au fil du temps à ça, selon justement l'intensité peut-être de ce que la personne vit au niveau de sa problématique avec l'alimentation. Tu sais, des fois...
Qu'est-ce que tu veux dire? Quel degré d'intensité une personne pourrait vivre, par exemple?
Bien, quelqu'un, mettons, qui ressentirait davantage de préoccupations, tu sais, que... Justement, il y a vraiment beaucoup d'intensité au niveau de la restriction, au niveau de la culpabilité, etc. Mais tu sais, des fois, on peut voir des comportements, ben c'est ça, de l'ordre, mettons, de troubles alimentaires avec des crises de compulsion alimentaire qui pourraient apparaître. Il pourrait avoir aussi une certaine forme de dépendance alimentaire qui pourrait apparaître. On pourrait avoir un trouble du réconfort. Donc, le trouble du réconfort, tu sais, très sommairement, dans le fond, c'est l'incapacité à la personne à répondre adéquatement à ses envies de manger là. Fait que ça fait en sorte que, justement, l'envie finit
diminue
par...
Diminue jamais.
Exactement. Puis, bref, tu sais, c'est d'une complexité très large et très profonde.
Donc, quand on dit manger ses émotions, c'est beaucoup plus large et complexe que juste dire que je compense parce que j'ai une mauvaise journée ou je suis stressé ou...
Oui. Exactement, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, nous, à la clinique, on a des professionnels de recherche qui se penchent très particulièrement sur le domaine, justement, de la dépendance alimentaire. Là, je t'en parle parce que tu l'as comme... J'ai eu l'impression que tu l'as noté,
ben non,
mais...
Je trouve ça intéressant de le nommer comme ça, de la dépendance physiologique, ou c'est une réaction comme ben, somatique ou émotionnelle face à un aliment qu'on est dépendant?
Je dirais que je suis pas experte, mettons, fait que je pourrais pas nécessairement décrire tous les mécanismes là, qui se passent, mais j'oserais dire que c'est un peu les deux.
Okay.
Parce qu'on peut avoir une tolérance, dans le fond, à l'envoi de la dopamine. Mais en tout cas, c'est super complexe, là, mais grosso modo...
Juste pour te donner un coup de main là-dessus, parce que je veux pas qu'on perde les auditeurs. Par exemple, le sucre. On dit souvent que le sucre crée une dépendance. Dans la nature de cette dépendance alimentaire-là, comment tu la qualifierais ou à quel point c'est vrai ou pas?
Ben, en fait, ça serait pas la dépendance au sucre en soi, ça serait plutôt l'utilisation des aliments qui viendrait créer une dépendance. Mais tu sais, ça commence à être étudié, ça commence à, dans le fond, piquer la curiosité des chercheurs. Fait que tu sais, je pense qu'on en est vraiment au balbutiement, mettons, de la définition de ce que c'est exactement. Mais il y a vraiment comme l'utilisation de la nourriture qui pourrait être, ben, dans le fond, une nourriture qui est riche. Fait que sucrée et grasse. Puis ça serait comme autant les deux, fait que pas nécessairement le sucre en soi, mais tu sais, il y a aussi comme le gras. Puis là, ça, dans le fond, il y aurait comme une dépendance qui s'installerait à même titre qu'une dépendance avec l'alcool. Fait qu'il commence à avoir des parallèles, justement, entre la dépendance alimentaire puis la dépendance, mettons, aux drogues ou à l'alcool qui commence à
s'explorer. On a tous vu le reportage, je me rappelle plus du nom, je vais dire un reportage parce que j'en cible pas un en particulier sur Netflix, où est-ce qu'on voit les réactions du cerveau à une personne qui mange du sucre puis qui a une libération de dopamine.
Ouais.
Et ce que tu me dis, c'est que ça pourrait être la même chose pour quelqu'un qui est dépendant au poutine. Pour revenir avec l'exemple, ça libérerait sensiblement la même dépendance.
Ben, en fait, tu sais, par personne, ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que c'est pas un aliment. Tu sais, peu importe, tu sais, ça sera pas moi, je suis dépendante à la poutine. Tu sais, ça va être comme non, je suis dépendante à juste la bouffe. Fait que, tu sais, il y a pas d'aliment ciblé en soi, là. C'est vraiment plus complexe. Mais c'est ça, tu sais... Ouais, on peut pas tant extrapoler parce que je suis pas comme une professionnelle là-dedans, mais tu sais, mettons, quand on parlait justement de manger ses émotions, ben tu sais, ça peut aller jusque-là. Fait que c'est quand même pas minime. Puis, tu sais, des fois, mettons, on peut voir, nous, on appelle ça un peu de la psychopop, là, mais des genres de petits conseils. Ah, tu sais, t'es triste, t'as envie de manger, ben va prendre une bonne marche, tu sais, ça va te faire du bien. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, à la limite, aller prendre une marche, ça peut juste faire exacerber, tu sais, le comportement. Si réellement, tu sais, on connaît pas la raison pour laquelle l'envie de manger s'est présentée, puis qu'on comprend pas justement c'est quoi le besoin ou l'émotion sous-jacente.
Donc, ça serait si je me sens triste, j'ai envie de manger tel aliment. Si mon corps me dit de manger tel aliment, je devrais le manger puis l'apprécier parce qu'à l'instant T, ça me fait du bien.
Ouais.
Puis ça va comme aider le corps. Et là, tu me corrigeras si j'ai bien compris, parce qu'en vulgarisant, j'espère que nos auditeurs aussi vont... Donc, ce qui est important, puis ce que je veux que les gens retiennent aussi, c'est des trucs, des astuces, ou juste des fois un déclic qui fait en sorte comme « OK, tu sais, je vais me positionner différemment par rapport à ce que je pensais qui était bon. »
C'est ça. Mais donc, c'est bon, oui. Effectivement, tu sais, si, mettons, j'ai eu une envie de manger du chocolat parce que j'ai vraiment passé une grosse journée, puis là, j'ai juste besoin de relaxer, bien, c'est correct de venir manger du chocolat. Puis, dans le fond, il y a une façon de le faire pour que ça soit efficace. Puis, tu sais, de nommer le premier critère qui est le plus important, c'est de le faire de façon sereine, puis de se donner la permission sans avoir peur que ça ait un impact. Puis, ce qui est vraiment magique, dans le fond, c'est que quand on répond le plus rapidement possible avec un aliment, tu sais, pour lequel on a le plus envie. Fait qu'exemple, j'ai une envie de manger spécifiquement, mettons, les petites boules de chocolat Lindt, la rouge. Ouais, c'est de ça que
la
j'ai
rouge,
envie.
La rouge, pas la bleue.
C'est ça. Bien, si je choisis cet aliment-là, que je me donne la permission de le faire, puis qu'en plus, je porte attention, une attention particulière à manger. Fait que je le fais pas en écoutant la télé, je le fais pas en parlant à mon chum. Tu sais, je le fais vraiment en mangeant ma petite boule de chocolat, juste moi puis ma boule de chocolat. Bien, le fait de venir appliquer en sachant consciemment que je mange ma boule de chocolat pour m'apporter du réconfort puis faire une transition avec ma journée, bien, ça va peut-être m'aider à justement calmer cette envie de manger-là. Mais aussi, tu sais, il y a comme un certain moment où est-ce que, ben, dans ma bouche, je le sens que c'est assez. dans mon corps, je le sens que c'est assez. Puis là, je dis une boule, mais tu sais, ça pourrait être une boule et une bouchée, ça pourrait être quatre bouchées de la boule, ça pourrait être, tu sais, c'est pas...
Ce que j'entends aussi dans ta façon d'approcher, ben là, c'est moi et la boule, il y a comme plus un apaisement, on se dépose pour dire « Hey, pourquoi je la mange? » Donc, on est aussi plus sensible, et c'est ce qui m'est venu quand tu as dit ça, on est plus sensible à comment on se sent, donc aussi plus présent à ces signaux de satiété, puis versus je dis « Ah, j'ai encore mangé de la boule, vas-y la grosse, mange des boules, puis là, on s'assoit devant la TV en se disant n'importe quoi, puis finalement, tu clignes des yeux, t'as mangé 8 boules, tu sais, des bleus, parce que t'as pas regardé si tu prenais rouge.
» C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, c'est important, puis je suis contente en fait que tu le nommes, parce que dans le concept de l'alimentation intuitive, il y a aussi le principe de l'alimentation en pleine conscience. Mm-hmm. Fait que dans le fond, l'alimentation en pleine conscience ne vient pas nécessairement inclure tous les aspects de l'alimentation intuitive, mais l'alimentation intuitive, elle, inclut l'alimentation en pleine conscience. Donc, c'est de justement porter cette attention particulière-là à, OK, comment je me sens à l'intérieur, mais aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi. Fait qu'on vient vraiment prendre conscience de tous les aspects. Fait que, mettons, des fois, je donne cette analogie-là. Fait que c'est comme, OK, là, j'ai besoin de me réconforter. Bon, ben, je mets mon besoin de réconfort sur la table, je le regarde. J'ai faim. OK, je mets ma faim sur la table, je le regarde. OK, j'ai l'impression, tu sais, que là, j'ai comme peut-être un peu peur de ce qui va se passer si je me laisse accéder à mon envie de manger. OK, bien ça, je la mets sur la table. Là, il n'y a pas de boule.
Il y a une bonne profondeur dans la réflexion, là, ce que j'entends.
Oui, oui, puis à l'extérieur aussi. Fait que là, il n'y a pas de boule rouge. Qu'est-ce que je fais, il n'y a pas de boule rouge? OK, bien, je vais prendre quand même les boules bleues parce que, écoute, c'est ça que j'ai, puis je vais quand même rester attentive à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que on fait attention à tout ce qui est à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, pour justement amener davantage une réponse adéquate finalement à cette envie de manger-là, pour que on se sente très en paix et très comme normal de le faire finalement.
Ce que j'entends, c'est que puis je sais qu'on en avait parlé à la première rencontre, parce que pour les gens qui nous écoutent, ce qui est particulier, c'est qu'on se connaît très peu. On a eu deux super échanges, Stéphanie et moi. Puis finalement, pour moi, ça a beaucoup résonné. Je pense que pour toi aussi. Ouais. Fait que on a encore plein de choses à découvrir. Donc, ça se peut qu'on s'écarte. Mais je sais qu'on en avait parlé que quand tu parles d'être en paix, donc il y a comme une réconciliation de la personne par rapport à ses envies, son corps, sa perception, son discours intérieur, puis la façon dont elle vit son alimentation. Au final, il y a comme ce travail-là de réconcilier la personne qui a été soumise à des diètes, à des concepts qui ne sont pas aidants au niveau de l'alimentation, à compter les calories, peu importe. Donc, c'est ça, il y a le mot réconciliation qui émerge, moi, quand je t'entends parler de cette paix-là dans la sélection de la boule que tu prends pour combler une grosse journée, puis de...
Ouais, puis tu sais, je pense que, en tout cas, ben moi, c'est vraiment ce qui me fait du bien, tu sais, au travers de mon travail, c'est que dans le fond, on vient pas juste dire, OK, ben on essaye d'améliorer un comportement alimentaire, c'est qu'on essaye d'aider un humain à se sentir mieux dans sa vie en général, parce que ce qui se fait dans le bureau en nutrition, ben tu sais, mes clients, ils finissent tout le temps par faire des liens aussi avec ce qui se passe dans leur vie, tu sais. Puis je m'écoute pas par rapport à mes envies alimentaires. Ben, tu sais, des fois, c'est je m'écoute pas par rapport à mes envies d'activité que j'aurais envie de faire, ou je m'écoute pas par rapport à mes besoins quand vient le temps de parler avec mes proches, ou tu sais, fait sans tomber là-dedans, parce que tu sais, c'est vraiment pas mon rôle d'aller jouer là. Mais des fois, juste d'exprimer ce constat-là, de faire ces liens-là, ça vient donner une dimension beaucoup plus large et profonde. Puis, tu sais, c'est là que, justement, mes collègues au CEPIA, tu sais, qui sont psychologues ou étudiants en psychologie, viennent, justement, rattraper un peu le bateau, puis viennent permettre le rétablissement complet de la personne, parce qu'on se rend compte que l'alimentation, tu sais, c'est bien plus que juste manger quelque chose puis dépenser de l'énergie. Puis, tu sais, on a souvent cette image-là au CEPIA, tu sais, que dans le fond, le comportement alimentaire, finalement, tu sais, c'est un iceberg. Puis, ce qui est véhiculé par la société, tu sais, c'est juste la pointe de l'iceberg. Mais on se rappelle qu'un iceberg, dans la vraie vie, bien, tu sais, la pointe représente juste 10 % du iceberg.
Absolument. Fait que
tout ce qui est en dessous, tu sais, souvent, c'est comme un peu négligé puis méconnu, j'oserais dire. Puis, s'il y a vraiment de la motivation à aller chercher pour travailler sur son comportement alimentaire, bien, la motivation devrait se poser sur davantage découvrir c'est quoi ce 90 %-là, puis comment est-ce qu'il se manifeste chez moi, puis comment est-ce que je peux améliorer ça pour finalement que ça ait un impact sur ma pointe de l'iceberg, parce qu'au final, on veut que ça ait un impact, mais on veut pas travailler juste sur la pointe parce que ça fait justement des yo-yo, tu sais, ça fait des variations cycliques pondérales qui nous amènent finalement à avoir peut-être un problème de poids qui était beaucoup plus, bien, qui est rendu finalement beaucoup plus grand que ce qui était à la base à cause que, tu sais, on le sait très bien, les diètes amaigrissantes, 95 % des diètes échouent, puis dans 60 % des cas, on va même prendre davantage de poids à cause.
Quelle origine?
C'est ça. À cause qu'il y a comme des mécanismes physiologiques de compensation qui viennent, dans le fond, se créer au travers du corps pour justement survivre à la famine, finalement, puis se protéger à une éventuelle famine. Fait que c'est comme des petits traumatismes qu'on vient créer qui viennent finalement aggraver notre problème.
Donc, c'est... Bien, je ne veux pas dire inévitable parce que je ne veux pas tomber dans l'absolu. Puis plus j'avance dans ma carrière, plus la nuance est importante. Mais c'est presque inévitable de travailler au niveau intérieur pour aller chercher ces 90 %-là, puis créer des fondations solides et de bien comprendre comment je vais asseoir ma démarche.
Oui.
Parce qu'une personne peut quand même avoir envie de changer ses habitudes puis perdre du poids pour des raisons de santé, puis tu sais, donc il faut accompagner ce changement-là aussi, mais que ça soit assis dans une compréhension intérieure qui est juste.
Oui, exactement, exactement.
Et j'aime beaucoup comment t'en parles, en fait. Tu parles de... je prends des notes maintenant pour être sûr de faire des meilleures interviews pour ceux qui... tu parles de préoccupation alimentaire. Et j'aime beaucoup cette nuance-là parce que... ça amène encore plus de profondeur dans, justement, un peu la place que la composition corporelle ou le poids peut prendre dans la vie d'un individu. Puis quand tu penses à ton poids, il y a plein d'autres choses auxquelles tu penses pas, tu sais. Donc,
ouais.
ça crée quand même un entonnoir dans la richesse des réflexions qu'un être humain peut avoir. Toi, dans ta pratique clinique, est-ce que tu vois des tendances ou la naissance de certains comportements de préoccupation qui sont plus présentes, peut-être à cause des réseaux sociaux ou... des choses que je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question.
Oui. Dans le fond, si je comprends bien ta question, c'est de voir si moi j'observe un lien entre les préoccupations puis les réseaux sociaux, c'est-tu ça?
Non, pas nécessairement les
pas
réseaux
nécessairement.
Sociaux, c'était juste un exemple que je donnais.
Okay.
Mais est-ce que toi tu vois une tendance, parce que la préoccupation mène quand même à plusieurs façons de percevoir ce qui peut être une inquiétude, tu sais.
Ouais.
Toi, est-ce que tu vois une tendance chez tes clients ou clientes par rapport aux préoccupations alimentaires?
Oui, ben moi dans le fond, tout le monde vient me consulter à cause qu'ils sont extrêmement préoccupés par l'alimentation.
Et qu'est-ce que tu entends dans ton bureau, là, vraiment, sans nommer des clients, mais
ouais.
quelles sont les tendances que toi, tu entends, les préoccupations de tes clients? C'était ça ma question.
Oui, OK. Bien, ça varie vraiment. T'sais, c'est vraiment comme un spectre. Puis, tu sais, dans le fond, la problématique de préoccupation par rapport au poids ou l'alimentation, il faut vraiment voir ça comme un continuum. Mm. Fait qu'à un extrême, on a la personne qui est 100 % dans l'alimentation intuitive. Fait qu'il va toujours écouter son corps, qu'il n'aura jamais de problème à manger 5 carrés au Rice Krispies en ligne parce que la personne, elle aime ça, elle l'apprécie. Des fois, elle va manger ses émotions, mais il n'y aura jamais de culpabilité qui va être associée parce que elle comprend que c'est juste normal, puis qu'à ce moment-là, c'est la seule façon de répondre à son besoin de réconfort, si on veut. Puis à l'autre extrême, bien là, on va avoir justement nos troubles alimentaires diagnostiqués. Fait que, puis tu sais, même dans le trouble alimentaire en tant que tel, bien, tu sais, il y a une gradation entre le « OK, bien, tu sais, je cote la limite », mais il y a aussi le « je cote le très sévère », tu sais.
Mm-hmm.
Entre les deux, bien, dans le fond, on passe de « OK, bien, je suis pas pantoute préoccupée » à « Ah, bien, tu sais, si, mettons, je mange 3 carrés Rice Krispies, c'est correct, tu sais, je vais pas trop me sentir mal, mais mettons que là, je m'en vais vers le 4, le 5, ou que, tu sais, je mange, je sais pas moi, un sac de popcorn pour souper, puis que là, tu sais, j'ai pas envie de manger de légumes, ben là, tu sais, ça va me faire sentir mal, mais tu sais, j'adopterai pas nécessairement de comportement pour venir, tu sais, répondre à ça, tu sais, que ce soit par la restriction ou peu importe. Tu sais, fait il commence à avoir des petites tendances, des petites préoccupations. Puis là, tranquillement, oups, là, on s'en va de plus en plus vers la préoccupation. Fait que j'ai fait beaucoup de diètes. Il y a encore des choses, tu sais, qui accrochent. Puis, tu sais, ouais, le chocolat, je me le permets, mais à chaque fois que j'en mange, tu sais, je suis pas bien, bien, bien avec moi-même. Puis, tu sais, je me dis, bon, ben OK, tu sais, là, j'en mange pour asseoir, mais tu sais, demain, clairement, je pourrais pas en manger, là.
Demain, c'est fini, là.
Ouais, ah. Envie, pas envie, j'en mangerai pas. Puis là, tranquillement, c'est ça. Tu sais, ça s'aggrave finalement tant que, ben, à mesure qu'on avance vers le trouble alimentaire. Fait que cette nuance-là, tu sais, est vraiment importante. Fait que dans le fond, le langage que mes clients vont adopter dans mon bureau, ça va vraiment être dépendamment de où est-ce qu'ils sont sur le continuum, finalement. Puis tu sais, j'en ai là, des clients que, eux, c'est comme, à partir du moment qu'ils se réveillent le matin, tu sais, c'est constant. Ils pensent à la bouffe tout le temps. Puis, tu sais, ils finissent de manger leur déjeuner puis sont déjà en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont manger pour dîner ou, tu sais, sont déjà en train de manger, de penser à qu'est-ce qu'ils vont manger, tu sais, ce soir devant la télé ou en arrivant de travailler ou, tu sais, quand ils vont aller tanker leur char, qu'est-ce qu'ils vont s'acheter, tu sais. Fait qu'il y en a que c'est comme extrêmement préoccupant. Puis de la même façon, dans le fond, au niveau de la préoccupation par rapport au poids, tu sais, il y en a qui seraient assis comme toi puis moi, puis qu'il y aurait une conscience exagérée de « Ah, tu sais, là, mettons mon jeans autour de ma cuisse, tu sais, là, je sens que c'est coincé, je suis pas bien, mes jambes sont croisées, tu sais, je sens que ça l'accroche, puis... » Puis des fois, tu sais, ça peut aller jusqu'à une altération du comportement ou, tu sais, du fonctionnement, en fait. Mettons, ça vient nuire à mes relations sociales, ça vient nuire sur ma performance au travail, ça vient, tu sais, nuire au rôle familial ou, tu sais, à ma capacité, mettons, à prendre soin de mon espace de vie. Fait que, tu sais, c'est comme envahissant selon, justement, l'intensité de la problématique.
OK.
Est-ce que ça répond?
Ça répond très bien à ma question, absolument.
OK.
Et dis-moi, dans le fond, comment tu vois ou qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce qu'évidemment, là, je suis sûr que c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui dit, ah, mais regarde, écoute, ça existe des gens qui ont perdu 40, 50, 60, 70 livres. Donc là, ils se mettent cette pression-là. Ils veulent atteindre ça aussi. C'est déjà arrivé que des gens aient des grosses pertes de poids. Puis évidemment, il y a des gens qui luttent pour y arriver, puis ils font des diètes à répétition, puis tu sais, it doesn't work. Toi, comment tu perçois la nuance entre quelqu'un qui réussit vraiment une démarche de transformation versus quelqu'un justement qui s'abute juste à des échecs à répétition, puis qui peut être justement énormément préoccupé ou...
Ouais. Ben, je dirais, mettons qu'il y a
sujet
plusieurs...
Sujet délicat, j'imagine, pour toi, de discuter...
Ben, oui, mais en même temps, c'est que... Tu sais, il y a tellement de réponses, mettons, à ta question.
Ouais.
Parce que, tu sais, ça pourrait être que, OK, oui, la personne, elle a réussi à perdre 40 livres, mais peut-être qu'elle a fait, justement, je sais pas moi, 2-3 ans de thérapie, ou est-ce qu'elle a travaillé sur sa relation avec la nourriture, elle a travaillé avec une nutritionniste qui travaille avec l'approche de l'alimentation intuitive. Puis dans le fond, son 40, 50 livres, bien, tu sais, elle l'a perdu au travers des années, puis c'est juste qu'elle a commencé à écouter son corps, puis que son corps s'est libéré naturellement du poids qu'elle avait en trop, tu sais. Fait que ça, mettons, ça pourrait être une option, mais tu sais, on a aussi de l'autre côté, ben, mettons, là, je vais avec un autre extrême, là, mais quelqu'un qui a fait un régime hyper drastique ou est-ce qu'elle a perdu, mettons, 40-50 livres en l'espace de un an, tu sais, ce qui est quand même majeur, mettons. Puis là, ben, maintenant, tu sais, elle arrive à le maintenir, mais en maintenant ces règles alimentaires-là très strictes.
Une rigidité.
La rigidité très, très, très intense. Puis, tu sais, des fois, là, c'est pas pantoute scientifique ce que je dis là, mais tu sais, des fois, c'est comme s'il avait développé une capacité mentale intense à contrôler leur alimentation. Fait que, tu sais, ils sont extrêmement dans le contrôle. Puis, tu sais, il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien, puis il y a des personnes pour qui ça fonctionne moins bien. Puis encore entre les deux, ben là, il peut avoir un super large spectre. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on arrive à bien contrôler non plus qu'on est nécessairement heureux. Fait que,
et ce que j'entends aussi, tantôt tu disais que tu sais, 95% des diètes sévères échouent. Et ce que le marché nous envoie, c'est qu'il va publiciser à outrance le 5%. Donc, ça donne espoir aux 95% des gens qui veulent le faire que it works, ça marche comme ça, tu sais.
Ouais, c'est ça, que moi je pourrais être dans 5%.
Quand?
Mais le 5%, c'est ça, implique de la restriction puis beaucoup beaucoup d'efforts puis d'énergie mentale, puis en fait, c'est ça qui fait que des fois pour certaines personnes, puis là, excuse-moi, je t'ai coupé là.
Ah ben non, il y a pas de problème. Mais, on discute.
OK. Mais dans le fond, dans ce 5%, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette énergie mentale là, ce qui arrive, c'est que c'est une ressource qui est épuisable à même titre que l'énergie physique est épuisable. Fait que peut-être que si j'arrive à contrôler pendant un certain temps, c'est parce que justement, ben, au niveau familial, ça va bien, la job, ça va bien, dans mon couple, ça va bien.
Une personnalité cartésienne, j'imagine, a peut-être un peu plus de facilité aussi.
Peut-être
avec,
aussi. Mais éventuellement, arrivera le jour où une personne dans ma famille décède, ou mon enfant à l'école, ben ça va moins bien, fait que là, il faut que je m'investisse, tu sais, davantage. Puis là, tu sais, l'énergie mentale devient comme plus dispersée, puis là, ben il en reste comme moins disponible pour gérer l'alimentation. Puis ça, c'est inévitable. Puis c'est, dans le fond, là, le genre de danger, si on veut, des diètes amaigrissantes, parce que c'est impossible de dire qu'on peut investir toujours la même quantité d'énergie mentale à contrôler son alimentation. Fait que, tu sais, ce qui va faire peut-être qu'une personne aussi va rester dans ce 5%-là, bien, c'est que peut-être qu'elle va finir par tasser des affaires de sa vie. Fait que, elle aura pas de chum, elle va, là, tu sais, je dis des affaires affreuses, mais mettons, elle va négliger ses enfants, tu sais, elle va s'assurer d'être dans un emploi où est-ce que, tu sais, elle se sent tout le temps performante, où est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement de défis professionnels, il va avoir moins de personnes présentes dans son réseau social. Fait que, tranquillement, il va avoir un genre d'isolement qui va se créer autour de cette personne-là qui va faire que, ah, ben, tu sais, je suis capable de garder un niveau d'énergie mentale suffisant pour m'aider à maintenir mes restrictions. Mm. Puis aussi, il y a quelque chose d'autre qui est important à dire, c'est que le 95% des personnes, tu sais, qui reprennent le poids, mais ça se fait pas dans l'année suivante. Tu sais, ça se fait progressivement sur 3 à 5 ans. Mm. Fait que des fois, tu sais, l'effet de causalité est comme pas super facile à faire parce que, tu sais, on reprend des fois pas aussi vite qu'on a perdu, puis tu sais, c'est tout à fait normal dans le fond parce que le corps a pas cette capacité-là, tu sais, de reprendre hyper rapidement, mais bref, c'est... Ouais.
Et tantôt, tu disais, tu sais, il faut laisser nos envies, puis là, les gens doivent reprendre confiance justement au fait que, hé, hey, là, j'ai envie de manger du chocolat, puis je dois l'apprécier pour répondre à ce besoin-là. Et tu l'as comparé aux drogues et à l'alcool. Ce qui est particulier avec l'alimentation, c'est que la drogue puis l'alcool, on peut le tasser de la vie, puis on va survivre quand même. L'alimentation, on va manger 3 fois par jour, du moins, je le souhaite à tout le monde, mais on va manger de l'alimentation, on va faire partie du quotidien, donc... On se doit de travailler et d'éclaircir notre relation à l'alimentation parce que ça va continuer à faire partie de notre vie.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est là que, dans le fond, c'est essentiel, tu sais, quand on a l'impression qu'on est dans des comportements de dépendance alimentaire, d'aller chercher de l'aide professionnelle. Mm. Puis, tu sais, j'irais dire même d'aller chercher de l'aide au niveau psychologique. Parce que c'est une dépendance. Puis si la dépendance s'est installée, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a amené là, finalement. Puis tu sais, tant qu'on ne comprendra pas le fond de la patente, bien, ça va être difficile de passer par-dessus. Puis c'est pas vrai que ça va être en contrôlant mentalement à cause de toutes les raisons que j'ai dites qu'on va y arriver, tu sais.
Et c'est super que tu dises ça parce que moi, j'apprends beaucoup à travers les interviews que je fais. Puis hier, j'interviewais une des personnes qui a fait notre défi de 6 semaines, puis que 2 ans après, elle a vraiment transformé sa vie. Puis tu sais, on sent qu'il y a eu cette réconciliation-là. Elle s'est pas imposée quelque chose qu'elle ne voulait pas. Puis en parlant avec Guillaume, je me rappelle plus s'il va être avant ou après notre interview.
OK.
Bref, puis il disait qu'il a fait justement 2 ans de thérapie, puis qu'avec sa psychologue, ben tu sais, il avait réalisé que ben une des valeurs importantes pour lui, c'était de prendre soin de lui.
Mm.
Et c'est suite à ça qui a décidé de faire cette démarche-là, puis c'était vraiment trippant de comprendre, lui, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va fonctionner. Parce qu'au final, c'est ça qui m'intéresse, tu sais, de comprendre ces mécanismes-là, puis que des gens qui nous écoutent aussi puissent éclaircir, eux, ce qui fait en sorte que ça fonctionne peut-être moins bien, ou qu'ils puissent entamer leur démarche de la bonne façon dans leur vie.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment fascinant, là, tu sais, des fois... Puis tu sais, c'est sûr que, mettons, tantôt, je disais, bon, OK, répondre à des envies de manger du chocolat, ben tu sais, ça a l'air bien simple de même, mais tu sais, il y en a pour qui ça sera même pas possible, mettons, de le faire tout seul sans tomber dans les débordements, puis c'est tout à fait normal. Puis tu sais, c'est vraiment important de le mentionner parce que des fois, justement, il y a des choses qui sont tellement inaccessibles quand on est tout seul avec nous-mêmes que, tu sais, on peut juste pas aller vers ça tout seul. Puis c'est ça, c'est normal. Puis, tu sais, c'est pas qu'on est trop brisé, c'est pas qu'on est trop poche. Puis c'est surtout pas parce qu'on manque de volonté, là. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Il faut savoir que, tu sais, notre cerveau est quand même conçu pour nous protéger aussi. Puis des fois, c'est juste des mécanismes de défense. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand j'arrive devant quelqu'un, justement, qui s'est libéré de tout ça, tu sais, c'est fou l'espace que ça crée, puis l'apaisement que les personnes sentent. Puis tu sais, des fois, il y en a qui venaient me voir pour un motif de perte de poids, puis finalement, ils n'ont pas perdu une livre, mais ils se sont libérés de leurs préoccupations par rapport au poids puis par rapport à l'alimentation. Puis ils ont le sentiment de peser 50 livres de moins.
Ben oui, je comprends.
Puis juste ça, des fois, ça vaut la peine d'entamer la démarche. Parce que aussi, il faut dire, tu sais, qu'il y a... Tu sais, tantôt, là, je parlais justement des impacts négatifs des diètes drastiques. Tu sais, que là, le métabolisme va chercher à diminuer pour venir se protéger de la famine. Puis là, bon, ça va faire en sorte que, justement, tu sais, le poids naturel, je l'ai pas expliqué comme ça, mais que le poids naturel va finalement se stabiliser un peu plus haut que ce qui était à la base. Ce qui va faire en sorte que, finalement, tu sais, les livres qu'on va prendre au travers des années vont être de plus en plus difficiles à perdre jusqu'à temps de se rendre à un point où le potentiel d'amaigrissement est nul. Fait que ça, tu sais, c'est triste pour ces personnes-là, tu sais, qui se sentent pas bien dans leur peau, mettons. Fait que c'est là, justement, l'intérêt d'aller travailler sur comment est-ce que je perçois mon image, comment est-ce que je perçois mon poids, puis comment est-ce que je perçois l'alimentation pour que même si mon corps en soi change pas, mais que je me sente quand même mieux avec moi-même.
Ben oui, je comprends.
Ouais. Puis tu sais, c'est là peut-être que, comme Guillaume, mettons, l'exemple que tu donnais, ben, tu sais, c'est là que le fait de... OK, bien, pour moi, c'est important de prendre soin de moi. Bien, le prendre soin de moi ne va pas nécessairement avec de quoi j'ai l'air, tu sais. Est-ce que je peux quand même prendre soin de ma peau? Tu sais, soigner mon maquillage, coiffer mes cheveux, choisir des vêtements qui m'avantagent. Puis, tu sais, au-delà de ça aussi, bien, m'assurer que ce que je vis à l'intérieur, bien, les gens le perçoivent. Tu sais, des fois, prendre soin de soi, c'est prendre soin aussi de son affirmation, de sa capacité à exprimer ses besoins, tu sais, de se permettre de rêver un peu. Fait que, tu sais, tu vois un peu la dimension que ça peut prendre.
Absolument, tout à fait. Stéphanie, je m'étais donné comme mandat de faire des podcasts digestes.
Ah.
Je te propose qu'on fasse une prise deux parce que j'aurais encore plein de questions. Je pense qu'on aurait des discussions qui seraient super riches. Puis moi, je trippe à t'entendre parler. Est-ce qu'il y avait des choses, toi, aujourd'hui, que tu considérais importantes à nous dire suite à ce qu'on s'est dit?
Des choses importantes à dire? Ben,
probablement plein.
Ben ouais, ben tu sais, je pense que les principales choses, en fait, que j'aimerais que les gens retiennent, tu sais, c'est surtout ça, c'est surtout comme la validité, en fait, d'avoir des envies de manger par pur plaisir puis par pur besoin de réconfort. Puis aussi, tu sais, que ça, c'est valide, mais que si on réalise au fil du temps que c'est notre seul moyen pour aller chercher du plaisir ou pour aller chercher du réconfort, ben de peut-être commencer à envisager de construire d'autres moyens de se procurer du plaisir puis de se procurer du réconfort. Puis peut-être que ça peut se faire tout seul en faisant des essais-erreurs, mais tu sais, peut-être que ça peut se faire aussi en essayant de, justement, tu sais, aller chercher de l'aide professionnelle ou, tu sais, en discutant avec quelqu'un qui nous est proche puis quelqu'un, tu sais, qui nous... en qui on a confiance, pour de vrai, tu sais. Puis, voilà, tu sais, je pense que c'est surtout ça, mettons, le message principal que j'aimerais que les gens retiennent.
Hey, Stéphanie, merci. Puis, ben, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié puis je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup. Bonne journée puis, ben, à la prochaine.
À la prochaine.
Bye.